En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Cher Alain, comme tu vois, nous avons repris la tradition de nos séances du lundi avec la clochette qui détermine l'heure du début de cette nouvelle conversation. Conversation donc avec Alain Duhamel, mon confrère de l'Académie des sciences politiques. Alain Duhamel, journaliste, essayiste et cette fois, je dirais, débatteur avec Édouard Balladur. Alors, l'année dernière, nous avons eu le plaisir de t'accueillir pour les pathologies politiques françaises. Et d'une certaine... Chère France, que je ne saluais pas, pardon. Les pathologies politiques françaises. Tu avais écrit au préalable, ou plutôt auparavant, une histoire personnelle de la Ve République. Tu as publié de très nombreux portraits des hommes et femmes politiques de cette Ve République. Et cette fois, tu la survoles à nouveau. Quand je dis survol, le terme est faible. En réalité, vous l'analysez, vous revenez sur beaucoup d'événements, beaucoup de personnages, à nouveau donc sur l'histoire de cette Ve République. Et d'ailleurs, c'est le titre que vous avez donné à ce livre à deux voix avec Édouard Balladur. Alors, en lisant cet échange entre Édouard Balladur et toi, je me rappelais qu'il y a bien longtemps, si François Mitterrand avait donné du relief à sa carrière politique au moment de 1965, donc sa candidature contre le général de Gaulle, c'était avec un livre qui s'appelait « Ma part de vérité ». Et cette part de vérité n'aurait jamais paru sans toi. Donc, Alain Duhamel et François Mitterrand, en 2001, c'est Alain Duhamel et Lionel Jospin, qui d'ailleurs assistaient à ta remise d'épée, Lionel Jospin, Premier ministre, lui aussi candidat à l'élection présidentielle de 2002, et cette fois, c'est avec Édouard Balladur, ancien Premier ministre, donc de cohabitation 93-95, candidat à l'élection présidentielle de 1995. On se rappelle qu'il échoue contre Jacques Chirac. Mais en réalité, cet échange, ce dialogue, va beaucoup plus loin, puisque, comme je le disais il y a un instant, vous repassez en revue l'essentiel des événements de cette Ve République. Alors, j'aimerais te demander, pour avoir travaillé avec François Mitterrand, avoir travaillé avec Lionel Jospin, et maintenant avec Édouard Balladur, comme chacun ne travaille jamais de la même manière. Et donc, je voudrais que tu reviennes à l'exercice que représente la correction de copie avec François Mitterrand, mais aussi comment vous avez fait avec Jospin, puis avec Balladur.
Avec François Mitterrand, écrire un livre qui, pour lui, a effectivement été important parce que c'était peu de temps après mai 68, il était, déconsidéré au sortir de mai 68. Oui. Et c'est à partir de ça que, d'une part, il a rebondi et d'autre part, et surtout, c'est dans ce livre qu'il a annoncé sa conversion au socialisme. Bon, conversion socialiste sur laquelle on peut, le cas échéant, avoir quelques doutes personnels. Oui. Mais c'était en tout cas une stratégie politique différente de celle qui existait avant. Alors écrire un livre avec lui, c'est une félicité et un cauchemar. C'est une félicité parce qu'il sait se rendre incroyablement disponible, presque trop, parce qu'il est toujours intéressant et assez souvent inattendu. En particulier au moment des enregistrements, il arrive assez souvent que ce soit atténué par lui-même dans la version écrite finale. Donc c'est assez fascinant. En plus, à cette occasion-là, je le connaissais un petit peu avant, mais pas très bien. Merci. Il avait, c'était peut-être Candide, c'était peut-être lié à ce qui s'était passé en mai 68 et à ses erreurs tactiques, mais il avait un énorme besoin d'auto-justification. Donc, ça durait des heures. Ça, c'était pour le côté positif. Le côté négatif, il est célèbre pour ça, mais enfin, j'ai pu vraiment l'éprouver à mes dépens, c'est qu'il était totalement incapable de tenir un horaire, qui n'était jamais à l'heure, et qu'ensuite il ne s'arrêtait plus, et qu'il vivait dans une telle liberté qu'il croyait que ceux qui ont à travailler avec lui disposaient de la même liberté.
c'est ça, oui.
Pour le reste, ce qui est très frappant, c'est que c'est le seul véritable écrivain des trois personnalités politiques avec qui j'ai fait ce genre d'exercice, et que lui, comme un vrai écrivain, travaillait ses textes jusqu'au bout, allant jusqu'à les en reprendre des passages chez l'imprimeur, au grand regret de l'imprimeur en question, dont ça ne facilitait pas le travail. Lionel Jospin, c'est tout à fait différent. Avec Lionel Jospin, alors d'abord, j'étais plus âgé, donc j'avais un petit peu plus de fermeté, sans doute, ou d'autorité. C'est moi qui organisais les choses. Alors donc, déjà, on était à l'heure. Et oui. Ensuite, quand on arrivait, il y avait un canevas précis que Lionel Jospin avait reçu 3 jours avant, dans lequel je ne disais pas les questions que j'allais poser, mais très clairement les sujets qu'on allait traiter, dans quel ordre, pendant combien de temps, etc. Alors ça amusait beaucoup son cabinet à Matignon, parce qu'il était assez autoritaire. C'était d'ailleurs une grande qualité qu'il avait, et une assez grande originalité à gauche. Il avait vraiment de l'autorité sur les différentes composantes de sa majorité et sur les membres du gouvernement. Et son cabinet était surpris et un peu offusqué de la docilité qu'il manifestait à mon égard dans l'organisation du travail. Mais il disait les choses. En même temps, autant François Mitterrand parlait de tout et était prêt à me parler de tout, quitte à travestir les choses, mais ça, c'est un autre problème. Autant Lionel Jospin, lui, disait les choses telles qu'elles étaient, mais s'interdisait de parler de certains sujets, et alors notamment, ce qui était frustrant pour moi, de tout ce qui se passait au moment où on faisait le livre. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment deux compartiments. Il y avait un compartiment « on fait un livre sérieux », et puis il y avait un compartiment « je suis Premier ministre, ça ne vous regarde pas ». Bon, c'est intéressant comme exercice, mais un petit peu contrariant quelquefois. Et quand un de ses malheureux collaborateurs surgissait dans le bureau en disant « voilà ce qui se passe, qu'est-ce
qu'on
fait ?»
Ça se déroulait dans son bureau.
Oui. Il disait à ce moment-là « voulez-vous sortir ? Ça n'est pas devant Alain Duhamel qu'on va parler de ce genre de choses. » Édouard Balladur, et quand on a fait ce livre pendant le premier semestre de cette année...
Combien de séances ?
Oh, d'après ma femme, beaucoup. Il n'exerçait plus de fonction.
Bien sûr.
Donc il était à la fois plus disponible, plus réfléchi sans doute, disposant de plus de temps pour se préparer, et au fond très désireux de laisser un livre qui, contrairement à celui de Lionel Jospin, n'avait pas un objectif politique immédiat. Lionel Jospin, c'était pour sa candidature présidentielle. C'était censé être son projet, et malheureusement ça a été son bilan. Ni François Mitterrand, qui était dans une opération de reconquête politique et presque de restauration de son image. Édouard Balladur, je dirais que j'ai plutôt vécu le livre qu'on vient de terminer ensemble et qu'on vient de publier, je l'ai plutôt vécu comme une sorte de testament politique. C'est-à-dire, il veut laisser une trace écrite, élaborée, de la façon dont il a lui-même traversé la Ve République, puisqu'aussi bien il a été le collaborateur pratiquement le plus proche de Georges Pompidou depuis le début des années 60.
C'est ça,
et il a joué toujours un rôle, quelquefois visible, quelquefois moins visible, selon les périodes. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était son regard devenu indépendant, puisque n'exerçant plus de responsabilité directe, qu'il avait envie d'exposer. Et lui aussi a beaucoup retravaillé sa part de texte.
Ah oui. Le mot testament politique, je trouve, ça s'applique d'autant mieux qu'il ne s'agit pas seulement de souvenirs. Il y a une partie souvenir, bien sûr, qui agrémente le livre, le rend vivant, etc. Mais c'est beaucoup de l'analyse et de l'histoire. Ouais. Alors, c'est probablement aussi le fait que ce soit toi qui sois en face de lui.
Alors, il y avait, d'une part, son regard, bien sûr, d'autre part, parce que c'était ce qui était tentant, inévitable et souhaitable. C'est-à-dire, on revisite les événements, et chacun a son regard, qui est quelquefois proche et quelquefois assez différent. Et puis on juge les principaux acteurs, et là, nos regards sont assez souvent divergents sur les principaux acteurs.
Alors oui, alors puisqu'on vient parler de François Mitterrand, c'est vrai que votre jugement, le portrait que vous en faites l'un et l'autre, n'est pas le même, quoique il y ait tout de même, bien sûr, des grandes lignes, et que il reconnaît tout à fait François Mitterrand homme d'État, ça c'est vrai. Mais il a vécu une cohabitation avec lui, il en a vécu même deux.
Deux. Il est très malheureux de reconnaître que c'est un homme d'État. D'accord. Et il le fait vraiment à regret, et un peu poussé par moi quand même, il faut dire les choses. Il admet qu'il a joué un rôle politique décisif, d'ailleurs, comment dire le contraire. Il est assez positif dans l'ensemble sur la politique étrangère de François Mitterrand. Mais dans son esprit, ça veut dire que c'est parce qu'il n'y a pas de rupture avec la politique étrangère gaulliste, bien sûr. Il est très critique sur la politique économique, mais ça, je dirais que moi aussi. Donc ça n'est pas... Mais sur le personnage, autant moi la dimension romanesque, contradictoire, compartimentée, énigmatique, libre avant tout, de François Mitterrand me passionnait.
Bien sûr.
Autant Édouard Balladur, ça l'irritait. Il avait toujours l'impression, quand il parlait à François Mitterrand, qu'il parlait à un Mitterrand, mais qu'il y en avait cinq autres à côté. Et que ça ne simplifiait pas forcément les échanges. Et alors, visiblement, leurs relations ont évolué. Sous la première cohabitation, avec Jacques Chirac étant Premier ministre, Édouard Balladur avait ce qui est sans précédent dans toute l'histoire de la Ve République, la liberté et la conduite absolue de la politique économique au sens le plus large, donc fiscale, budgétaire, monétaire, financière, etc., accordée par Jacques Chirac. Et il insiste bien sur le fait que Jacques Chirac a absolument respecté son engagement. C'est la seule fois où on avait le numéro 2 du gouvernement disposant vraiment d'un territoire totalement à lui. Et ça n'est pas anodin, puisque c'était une politique économique peut-être la plus libérale qui a été menée sous la Ve République, et qui était une rupture avec ce qui précédait, et même une rupture très marquée. Et là, Édouard Balladur a été réellement libre de ses mouvements. Et bizarrement, il m'a dit qu'évidemment, il rencontrait François Mitterrand de façon protocolaire en Conseil des ministres une fois par semaine, mais les conseils des ministres étaient réduits à leur plus simple expression parce que le président d'un côté et le gouvernement de l'autre ne voulaient pas la même chose. Donc, c'était des conseils des ministres de trois quarts d'heure. Alors que ça peut être des conseils des ministres dans d'autres phases de trois heures, mais qu'il n'a jamais eu en deux ans une seule conversation personnelle avec François Mitterrand à ce moment-là. 86-88. En revanche, 93-95, quand il était Premier ministre, là, ils se sont beaucoup parlé, beaucoup vu, ont beaucoup partagé des voyages à l'étranger, des rencontres à Paris, et plus leur visite institutionnelle, au moins bi-hebdomadaire. Et il m'expliquait que, au départ, pendant un an, ça s'était très bien passé. Et puis, parce que c'était la fin du règne de François Mitterrand, parce qu'il était de plus en plus malade, et parce que, visiblement, Édouard Balladur l'agaçait de plus en plus. Alors, Édouard Balladur a comme hypothèse que c'était peut-être parce qu'il réussissait. Je ne sais pas si c'est la vraie explication, mais c'est en tout cas une hypothèse. Et évidemment, ce qui a tout brouillé, c'est quand il y a eu une célèbre interview dans Le Figaro sur la politique étrangère, et que ça a été titré par Le Figaro, pas par Édouard Balladur, « Ma politique étrangère », et que alors là, François Mitterrand s'est littéralement étranglé. Là, ils se sont vus le surlendemain, et le surlendemain, il l'a accueilli en disant « Monsieur le Premier ministre, je ne savais pas que vous aviez été promu chef d'État la semaine dernière ». Et absolument. Ça a été assez sec et ça l'est resté.
Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas dit, enfin François Mitterrand n'a pas dit à Édouard Balladur à peu près ce qu'il allait dire à Jacques Chirac un peu plus tard, qu'il était naturel que ce soit lui qui lui succède? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu cette...
Non, je ne crois pas. Parce que ce qui s'est produit...
Sur la campagne, si tu veux.
Ce qui s'est produit, c'est que François Mitterrand, au départ, a été agréablement surpris par la culture d'Édouard Balladur. Et que comme il ne peut pas s'empêcher d'envoyer des piques, évidemment, il a toujours été comme ça, il lui a dit « c'est assez agréable et c'est assez nouveau pour moi d'avoir un interlocuteur politique qui ait lu les mêmes livres que moi ». Ce qui était assez désobligeant pour l'ensemble du personnel politique sur de nombreuses années.
Sur de nombreuses années, oui, tout à fait.
Ensuite, je pense que c'est... il a trouvé qu'Édouard Balladur s'émancipait exagérément. Et puis Jacques Chirac a été très habile avec François Mitterrand à ce moment-là.
Tout à fait.
Alors que Dieu sait qu'il s'était écharpé pendant la première cohabitation, pendant la première cohabitation, il n'y avait pas eu de conflit direct entre François Mitterrand et Édouard Balladur. Ils n'étaient évidemment pas du tout d'accord sur la politique économique, mais François Mitterrand ne s'en occupait que pour refuser le cas échéant de signer des ordonnances.
Ça, c'est vrai. Et le débat Mitterrand-Chirac de la présidentielle de 88 était terrible.
Enfin, oui.
C'était
le plus... À l'époque, on a dit que c'était le plus cruel et le plus violent qu'on ait connu. Et c'était vrai.
Ouais.
C'est évidemment très en dessous du dernier auquel on est assisté.
Oui, mais là, il y a eu un effondrement. À propos du général de Gaulle, est-ce qu'il t'a appris des choses, lui, Édouard Balladur ?
Il m'a appris une chose, factuellement.
Oui.
C'est que le général de Gaulle avait proposé à Georges Pompidou d'être Premier ministre dès le milieu du gouvernement Debré.
Ah oui, très tôt.
Donc très tôt.
Très tôt.
D'autant plus qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Georges Pompidou, qui n'avait pas fait une carrière politique, avait été évidemment le principal collaborateur du général pendant la traversée du désert.
Bien sûr.
Puis le général de Gaulle l'avait fait venir comme directeur de cabinet dès qu'il avait pris la tête du dernier gouvernement de la 4e République.
Voilà.
Et ensuite, Georges Pompidou n'avait pas voulu rester en politique. Il était retourné dans le secteur privé. Et le général de Gaulle lui avait proposé beaucoup de choses, qu'il avait refusées. Il lui avait, dès le début du gouvernement Debré, proposé le ministère des Finances. Donc, dès 59. Et ensuite, au milieu du gouvernement Debré, il faut dire que les relations entre le général et Michel Debré devenaient quelquefois un peu tumultueuses. Il avait demandé à plusieurs reprises à Georges Pompidou s'il accepterait d'être son Premier ministre ou pas. Georges Pompidou étant banquier à ce moment-là. J'ai appris ça.
Oui.
Alors, à propos du général, disons qu'en ce qui concerne la stature, nous sommes d'accord avec Édouard Balladur. D'ailleurs, ça serait de mauvaise foi de ne pas l'être. Qu'en ce qui concerne sa conception des institutions, ça, c'est assez intéressant. Édouard Balladur reconnaît tout à fait qu'il avait participé de très près à l'élaboration de la Constitution. Au fond, il représentait Georges Pompidou à ce moment-là.
D'accord.
Dans les réunions de constitutionnalistes. Et il reconnaissait tout à fait qu'entre ce que le général de Gaulle avait dit à ses interlocuteurs, notamment aux hommes politiques des différentes sensibilités qui appartenaient à un groupe de travail spécifique, contrairement à ce qu'il leur avait dit à ce moment-là, il a pris des libertés avec les textes par la suite. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, en réunion avec les principaux leaders de partis politiques acceptant de travailler avec lui sur l'élaboration de la Constitution, il leur avait dit que, naturellement, le président de la République nommait le Premier ministre, mais qu'il ne pouvait pas le défaire parce que c'était un régime parlementaire. Bon, après quoi, la première chose qu'il a faite, c'est de demander une lettre de démission à chacun des premiers ministres qu'il a nommés. Ce qui prouve bien qu'il avait en tête, au contraire, vous êtes responsable et c'est moi qui décide quand vous n'êtes plus premier ministre. Bon, de même, évidemment, pour le recours au référendum par l'article 11 ou des choses comme ça, où il avait dit pendant l'élaboration de la Constitution le contraire de ce qu'il a fait. Et j'ai été surpris que Édouard Balladur acquiesce à ces pistes-là. Autrement... Clairement, Édouard Balladur admire beaucoup le général de Gaulle. Mais pour lui, le président idéal, c'est évidemment Georges Pompidou.
Bien sûr. Alors il y a un épisode intéressant et rarement évoqué, qui est celui d'une esquisse de candidature de Georges Pompidou en 1965, au cas où le général de Gaulle ne se serait pas présenté. présenté à l'élection, à la première élection du président de la République, au suffrage universel. Et il avait fait écrire cette biographie par Mary Bromberger, parce que comme tous les candidats à la présidentielle, finalement, on se fait écrire sa biographie ou soi-même pour se présenter à une élection. Mais ceci a été très utile à Georges Pompidou par la suite, parce qu'au fond, pour la première fois, on avait un document qui, pour l'essentiel, sans être hagiographique, donnait tout de même beaucoup de choses sur sa personnalité. Donc quand il va arriver au devant de la scène, finalement 4 ans après, c'est pas beaucoup, eh bien, ça va être utile.
Mais ce qui ressort de l'époque, c'est que Georges Pompidou a eu l'hypothèse en tête, l'hypothèse selon laquelle le général ne se présenterait pas. Et le général de Gaulle, qui était non seulement un grand stratège, mais un très bon tacticien, même si ensuite il a eu, comme tout le monde, des périodes de défaillance, notamment en mai 68, mais très bon tacticien, s'est bien gardé de donner ses intentions et n'a rendu ses intentions publiques qu'un mois avant le premier tour.
Absolument.
Ce qui fait que tout le monde était un peu le bec dans l'eau en attendant de savoir ce qui allait se passer. Et le premier à avoir le bec dans l'eau, c'était Georges Pompidou, même si plus le général gardait le silence, plus il devait bien penser que c'était pour se préparer.
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Georges Pompidou, président idéal pour Édouard Balladur, ça se comprend très très bien. Il est son collaborateur. Il deviendra secrétaire général de l'Élysée sur la toute fin de la présidence de Georges Pompidou. Il a vécu ce qu'il a appelé, me semble-t-il, c'est ça qu'il a appelé la tragédie du pouvoir.
Exact. Hein, c'est le.
C'est ça.
C'est le titre d'un de ses derniers livres.
Oui, tout à fait.
Là, il y a une expérience qui est unique, elle aussi, qui d'ailleurs pose des problèmes, j'allais dire presque démocratiques, qui est que dans les dernières semaines de Georges Pompidou, Georges Pompidou souffrait terriblement, et de plus en plus. Ne passait à l'Élysée qu'une heure par jour et le reste du temps restait chez lui dans l'île Saint-Louis, ou bien, dans certains cas, était à la campagne et même une fois à Cajar. Ne venait le voir comme collaborateur exclusivement qu'Édouard Balladur, à la demande de Georges Pompidou. C'est Georges Pompidou qui décidait ça. Et il lui demandait de préparer ses décisions. Alors c'est lui qui les prenait, mais Édouard Balladur les préparait. Et ce qui est à la fois fascinant comme fonctionnement et inquiétant, c'est qu'en revanche, le Premier ministre de l'époque, qui était Pierre Messmer, était laissé complètement en dehors de ça, et aucun ministre n'avait de contact direct avec le président. Autrement dit, la France a été pendant quelques semaines, mais les quelques semaines, il peut se passer des choses très importantes, pendant quelques semaines a été gouvernée par un duumvirat composé de Georges Pompidou et Édouard Balladur. Bon, ça n'est pas exactement ce que prévoit la Constitution.
Non. Et ça n'est pas non plus ce que l'on pouvait comprendre de son propre récit à travers la tragédie du pouvoir. La tragédie du pouvoir, c'était vraiment la maladie et l'exercice du pouvoir en tant que maladie.
Oui, oui.
Mais on ne comprenait pas ce que tu es en train d'expliquer aussi clairement. Et maintenant, ça apparaît dans les souvenirs et le livre.
Ouais.
Ça, c'est une chose vraiment passionnante en soi. Ensuite, donc, nous allons avoir les années Giscard. Et ces années Giscard, Balladur n'est plus en politique, au fond, ou en politique directe, de toute façon. Il les a vécues comment et va réapparaître par la suite. Mais comment ça fonctionne, ça ?
Pendant cette période, au début, d'abord, il a refusé de se mêler à l'élection de 1974.
Absolument.
Et il n'a voulu ni soutenir Jacques Chaban-Delmas, pour lequel il a très peu de considération.
Oui.
Et on peut même dire qu'il l'éreinte.
Oui.
Sujet de dissension avec moi. Moi, j'aimais beaucoup Jacques Chaban-Delmas, mais lui, visiblement, pas du tout. Il le considère comme pas sérieux, superficiel. Bon.
Il y a un point, je t'interromps parce que c'est important, mais quel âge a-t-il à l'époque, Édouard Balladur, à l'époque de Georges Pompidou? Il a
pas 40 ans. Aujourd'hui, il a 88 ans.
Oui, c'est ça.
Et on est en 1974.
Oui, c'est ça, absolument.
Donc, il est très, très jeune.
Très, très jeune.
Extrêmement jeune.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
Bon, donc, il ne veut pas se mêler de ça parce qu'il ne veut pas qu'on puisse utiliser son nom comme une sorte de testament implicite de Georges Pompidou. Mmh. Autrement dit, il ne veut pas qu'on récupère Georges Pompidou à travers lui, donc oui. Il ne s'en mêle pas. Ensuite, il entre dans le secteur privé, mais à partir du moment où Jacques Chirac a commencé à s'émanciper face à Valéry Giscard d'Estaing, il a commencé aussi à consulter Édouard Balladur. Et en réalité, à l'époque, ça n'était pas connu. Mais Édouard Balladur a joué un rôle assez important de conseiller de Jacques Chirac, disons, dans les trois dernières années. Ce qui fait qu'il n'est pas assez aimable à mon gré avec Raymond Barre. Moi, je suis beaucoup plus positif.
Ils ont été concurrents, d'une certaine façon.
Ben oui. Voilà. Ben oui. Mais c'est comme les journalistes. Ah ben hein. Oui. On aime beaucoup nos confrères, oui. Mais on aime encore mieux si on a l'impression que, etc. évidemment. Et là, c'est pareil.
Bien sûr.
C'est assez étonnant parce que, au fond, Raymond Barre, si j'ose dire, menait une politique très balladurienne sur le plan économique. Mais Édouard Balladur considère que, quand il l'a menée lui-même, c'était mieux fait.
C'est ça. C'est ça.
Je pense qu'il a essayé de tempérer Jacques Chirac entre 77 et 81 et qu'il y a eu un peu de bataille entre, d'une part, l'équipe Juillet-Garot oui. Et d'autre part, Édouard Balladur. Oui. Et alors, à partir de 81, il est devenu le conseiller occulte, mais essentiel, le déterminant.
Alors, 81, c'est quand même la grande déchirure après 23 ans de pouvoir... gaulliste, giscardien, donc en gros de la droite, de la droite au pouvoir, grande déchirure qui se fait parce que Chirac, lui, d'une certaine façon, n'invite pas son électorat. D'abord, il est candidat contre Giscard au premier tour, et ensuite, cette candidature est manifestement une réserve à l'égard de Giscard, et donc ça va créer une rupture dans l'électorat gaulliste.
On peut dire qu'entre 76 et 81, oui, et de plus en plus fortement, Jacques Chirac était un adversaire de Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, c'est ça.
Et ce qui explique d'ailleurs la victoire de François Mitterrand en 81 assez
exactement.
Largement.
Tout à fait.
Il y a deux phénomènes, enfin en dehors de la stature personnelle de François Mitterrand, il y a eu deux éléments qui ont joué plus que les autres. L'un était que le Parti communiste ayant rompu l'accord de gouvernement de la gauche en 77,
oui.
Du coup, les électeurs du centre et de droite avaient moins peur, mm-hmm. puisque François Mitterrand était sans les communistes,
absolument.
Et que simultanément, Jacques Chirac, et avec lui donc une fraction de l'électorat de la droite, pas du centre, mais de la droite, tapait à bras raccourcis en permanence, non pas sur François Mitterrand, mais sur Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est ce qui a fait l'élection de 81, ces deux facteurs-là.
Oui, ça s'est joué. C'est joué à moins d'un million de voix.
Oui.
Et donc là, nous retournons d'une certaine façon à François Mitterrand dont nous avons parlé tout à l'heure. Évidemment, le jugement sur les premières années de Mitterrand sont extrêmement... le jugement est extrêmement sévère et ça se comprend du point de vue de l'économie, bien sûr. Cela dit, c'est pas une longue ligne toute marquée. Au contraire, François Mitterrand s'adapte, change de ligne en 84.
Trois,
printemps 83, et puis en 84, ce sera sur les histoires de l'école, qui est un peu différent, mais ça signifie que, oui, il change, et ça prépare, mais bien sûr, l'objectif de Mitterrand n'est pas celui-là, puisqu'il instaure la proportionnelle aux élections pour essayer de sauver, en tout cas, la gauche. C'est quand même la droite qui s'en sort, malgré la présence du Front National. Et donc Mitterrand a joué à peu près toutes les cartes qu'il avait en main successivement, non ?
Mitterrand a fait en 81 quelque chose qu'on ne lui a pas du tout reconnu,
oui.
Et qui, à l'expérience, n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Il a appliqué le programme sur lequel il s'était fait élire.
Voilà. Depuis, on essaye de ne plus le faire.
Bon. Et il se trouve que les résultats ont été ce qu'on pouvait prévoir.
Voilà.
C'est-à-dire que le premier budget qu'il a élaboré, qui a été élaboré sous son autorité, a vu le déficit augmenter de 27%, ce qui est un record historique qui n'a jamais été approché, ni avant, ni après.
Oui.
Bon, c'était un des choix. Et moi, à l'époque, j'en parlais avec François Mitterrand. J'avais publié en 82 un livre pour expliquer qu'il serait bien obligé de changer de politique économique. Il a commencé à le faire à l'automne 82 et il l'a fait vraiment en 83. Oui. Mais avec la dimension européenne de cette époque-là qui était quasiment tragique. Moi, je trouve que pendant cette période, François Mitterrand a fait deux choses très positives. La première, c'est qu'il a achevé d'enraciner des institutions qu'il avait pourtant farouchement combattues. Oui. Donc là, il a vraiment fait le contraire de ce qu'il disait, mais de ce qu'il écrivait avant. Mais ça, c'est très bien.
Bien sûr.
Enfin, très bien, selon moi. Mais moi j'ai trouvé ça très bien. Et d'autre part, il a mené une politique étrangère très intelligente, alors que ça n'était pas si facile quand on succédait à 23 ans de droite et avec une politique étrangère très spécifique. Il est arrivé à, je dirais, soit modérer, soit nuancer certains aspects, à en durcir d'autres. Par exemple, il a eu une politique vis-à-vis de l'Union soviétique et des pays de l'Est beaucoup plus exigeante que celle de ses prédécesseurs, aussi bien Valéry Giscard d'Estaing que Georges Pompidou, que le général. Ça m'allait très bien aussi. Donc, là-dessus, en gros, on est d'accord avec Édouard Balladur.
Bien sûr.
Ensuite, Édouard Balladur a joué un rôle spécifique qui est... Alors, il dit qu'il avait soumis son texte à Jacques Chirac et que Jacques Chirac n'avait pas réagi. Mais Édouard Balladur a été le premier à publier dans Le Monde un article pour légitimer la cohabitation.
Ouais,
sauf erreur de ma part, ça devait être
84,
en 80. Voilà, c'est ça. Ouais. Et tout le monde, la presse, puis l'opinion, que l'opinion ne connaissait pas à ce moment-là, Édouard Balladur, a bien compris que c'était du moment que ça n'ouvrait pas une polémique du côté du RPR, c'était donc que c'était accepté par Jacques Chirac. Possible. C'était la première fois qu'on disait vraiment et publiquement une cohabitation est légitime et compatible avec les institutions, ce qui ne s'était jamais produit avant, évidemment.
Et on ne peut pas oublier non plus la manière avec laquelle, intégrant quatre ministres communistes dans le gouvernement de Pierre Mauroy, il a en gros entamé le déclin définitif du Parti communiste.
Oh ben alors là, dès que j'en ai parlé avec lui pour la première fois, donc en 1968, il ne m'a jamais caché qu'un de ses objectifs était de détruire progressivement le Parti communiste et qu'il était sûr d'y arriver. Et là-dessus, il n'avait aucune inquiétude. Et quand il avait des ministres communistes... Disons qu'ils étaient surveillés assez attentivement.
Oui, absolument. Puis les fonctions auxquelles il les avait mis, placées, étaient évidemment tout à fait typées. Alors, la première cohabitation, comme la deuxième, donc 86-88, tu le dis très bien, Balladur est numéro 2, Jacques Chirac, Premier ministre, ce sont deux années d'économie libérale à tout point de vue. C'est tout à fait juste, puisque... privatisation de ce qui avait été nationalisé 5 ans avant. Et ça, c'est le plus spectaculaire. Mais au fond, Balladur explique bien aussi que ces privatisations, elles vont être interrompues. Il les reprend à nouveau quand il est Premier ministre, cette fois en 93-95. Mais pas seulement la privatisation. Enfin, je veux dire, l'ensemble des réformes qu'il engage sont de nature libérale. Ce sera, en effet, la seule période vraiment libérale que nous aurons eue depuis 30 ans.
La double originalité d'Édouard Balladur pendant cette période, ça a été que ces privatisations n'ont pas été des privatisations à l'anglaise. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas simplement s'agi de rendre au marché ce qui était nationalisé avant. C'était des privatisations organisées, avec des noyaux stables.
Oui.
L'idée de noyaux stables qui était critiquée à l'époque, qui s'expliquait aussi par le fait qu'on trouvait moins facilement des capitaux à ce moment-là qu'aujourd'hui, sur le marché. Mais c'était surtout qu'il voulait qu'il y ait une sorte de contrôle français implicite sur les groupes stratégiques. Oui. Et c'était donc critiqué par les ultralibéraux de l'époque. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est que effectivement, tu as raison de souligner le fait que, au fond, en 93, il a repris le fil de ce qu'il avait arrêté de faire en 88. Et le résultat de ça est qu'il est le seul Premier ministre de la Ve République qui soit arrivé au pouvoir avec, d'une part, un programme très précis et d'autre part en ayant passé plusieurs années à se préparer à cette responsabilité-là. Parce que dès 88, Jacques Chirac était bien décidé à être de nouveau candidat, bien entendu. Ça, de toute façon, s'il avait pu l'être 20 fois plus, il l'aurait été 20 fois de plus. Mais à ne plus être Premier ministre, parce qu'il avait bien compris que le fait d'être le Premier ministre sortant était un handicap quasiment insurmontable.
Et ce donc, qui a été le cas tout le temps.
Qui était tout le temps le cas.
Ouais.
D'ailleurs, jamais sous la Ve République, celui qui exerce l'essentiel du pouvoir, selon les périodes, c'est le Premier ministre, c'est le président de la République, s'il a sa propre majorité législative, ou c'est le Premier ministre si on est en cohabitation. Non. Mais celui qui exerce la responsabilité du pouvoir a, depuis 1981, toujours été battu sans aucune exception. Ce qui est aussi une des racines de l'instabilité politique française à comparer avec certains de nos voisins.
Oui. Bon. Qui nous a valu, enfin, d'ailleurs, de l'inversion du calendrier en 2002, le choix du quinquennat, etc.
Voilà.
Et le fait qu'aujourd'hui, ça se joue tous les cinq
Bien
ans.
Bien entendu.
Alors, en 88, Raymond Barre est candidat. Bon, à cette époque-là, évidemment, Édouard Balladur n'a aucune ambition de ce genre, si ce n'est peut-être à long terme, mais en tout cas, aucune ambition. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que Raymond Barre est candidat et il a une attitude à l'égard de Giscard, qu'il avait nommé Premier ministre sous son propre septennat, Giscard, une attitude de timidité pour lui annoncer sa candidature qui était incroyable. Enfin, il avait eu du mal à lui annoncer.
Il y avait une raison bien précise à cela.
Alors
c'était qu'en 88... Valéry Giscard d'Estaing considérait qu'il pouvait être de nouveau candidat lui-même.
Voilà.
Il était à peu près le seul à penser ça.
Oui.
Mais il le pensait fortement.
Oui.
Et donc, quand Raymond Barre est allé le voir en lui annonçant son intention de se présenter, Giscard était absolument furibard. Et les Giscardiens, pendant la campagne de Raymond Barre, étaient théoriquement des appuis de Raymond Barre. Et en pratique, c'était, disons, des feuilles venant de subir une tempête sur lesquelles on glisse facilement.
Et alors, la présidentielle suivante, celle de 1995, donc Chirac, on le sait, va être candidat. Et ce qu'on n'imaginait pas quand Chirac était candidat, c'est que Balladur serait son concurrent. Parce que, moi je me rappelle d'une phrase de Séguin qui avait dû prononcer ça en 92 ou 93, « Vous verrez ». En 1974, on a eu le plus jeune président de la République. En 1995, on aura de nouveau le plus jeune, le plus âgé des présidents de la République ou des candidats à la présidence de la République. Ce sera le même, ce sera Valéry Giscard d'Estaing. C'est-à-dire qu'en 1992, si l'on voit un concurrent à Jacques Chirac, c'est encore Giscard. Ça ne va pas être Giscard, ça va être Raymond Barre. Et alors, ce qui est amusant, c'est quels sont les motifs qui le poussent à la candidature.
Édouard Balladur.
Édouard Balladur.
D'abord la façon qu'il a de se regarder lui-même. C'est-à-dire qu'il considère qu'il est quelqu'un qui a l'envergure d'un homme d'État.
Ce qui est vrai.
Point de vue que je partage tout à fait.
Bien sûr.
Mais qui n'est pas le cas de tous ceux qui veulent être candidats. Je veux dire, ça n'est pas quelqu'un qui ait des inquiétudes sur son envergure. Alors que tu citais à l'instant Philippe Séguin était quelqu'un de très intelligent, c'était une très forte personnalité, qui ne cessait d'avoir de véritables moments de détresse en se demandant s'il était vraiment légitime de faire ceci, ouais. S'il était vraiment à sa place en faisant cela. Bon, Édouard Balladur, non. Ensuite, il avait quand même très bien réussi comme Premier ministre. Et si j'ose dire, c'est le drame de sa rivalité avec Jacques Chirac. C'est que Jacques Chirac n'a pas bien réussi comme Premier ministre entre 86 et 88.
Ouais.
Édouard Balladur, oui, en économie, mais le reste, non.
Oui, oui, bien sûr.
Hein, qu'il s'agisse de la scolarité, qu'il s'agisse de la sécurité, qu'il s'agisse du climat social, ça a été épouvantable. Et la fin était même assez violente.
Oui.
Édouard Balladur, on l'a complètement oublié aujourd'hui, mais a été un Premier ministre très populaire jusqu'au moment où il était candidat à la présidentielle, ce qui est classique. Mais vraiment très populaire.
Avec un joli déficit à la fin aussi.
Oui, mais...
Bon.
Non, mais il n'était pas non plus un magicien.
Non.
Hein, il n'a pas fait que des prouesses, bien sûr. Mais ça a été vraiment un bon Premier ministre, populaire, apprécié, entreprenant. Et évidemment, quand il a vu les Français le mettre très au-dessus de Jacques Chirac dans les sondages, très au-dessus, et qu'il avait l'impression que ça se passait bien, il s'est dit qu'après tout, personne n'était propriétaire de la charge de candidat.
Absolument.
Et donc, il a considéré qu'il pouvait l'être. Il faut dire qu'il y a été poussé par un groupe de ministres modérés et centristes dont Simone Veil avait pris la tête et qui, dès la fin de 93, en décembre 93, donc très tôt, puisque l'élection a été en 95, oui, avait demandé à Édouard Balladur publiquement d'être candidat. Et alors, il raconte dans... Donc ça, ce sont des faits avérés. Et il raconte dans le livre, c'est son témoignage, et après tout, il est quand même le mieux placé pour le rendre, que ce qui l'a définitivement décidé à se lancer, c'est l'affaire de l'avion avec Airbus, les otages français,
absolument,
qu'il a géré lui-même. Oui. Il a pris des risques intelligents, mais enfin des risques quand même. Ça a été un succès incroyable. Mmh. C'est très rare d'arriver à récupérer près de 200 otages sans qu'il y ait un seul mort
absolument,
parmi eux.
Absolument.
Et évidemment, toute la presse lui a tressé des louanges le lendemain. C'était à peu près la dernière fois, d'ailleurs. Parce qu'ensuite, il a été candidat et donc tout le monde lui est tombé dessus. Là aussi, oui, c'est la norme.
Ça, c'est la norme. Absolument. Alors, nous allons survoler rapidement la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que... d'abord, c'est toi qui le dis. La France aime la nouveauté, mais pas le changement. C'est votre avis assez divergent sur l'avenir de cette Ve République que nous venons de survoler à travers Premier ministre ou Président de la République. Parce que, bon, je ne dis pas qu'Édouard Balladur pense qu'il faille changer de République, mais on a l'impression que cette Ve République, elle arrive à un moment où elle est épuisée. Alors que toi, pas du tout, tu dis ben ça, tout ça, ça dépend en réalité de ceux qui exercent ces institutions. Et qu'elles ont un bel avenir devant elles. Voilà. Donc alors, j'aimerais que tu reviennes sur ce débat.
En fait, on a évidemment assez longuement parlé des institutions. On en a parlé au fur et à mesure de la chronologie quand il y avait des problèmes qui se posaient ou des réformes importantes qui étaient faites. On était très d'accord là-dessus. Et au fond, sur la qualité des institutions et sur le fait que la Ve République soit le moins mauvais des régimes politiques possibles pour la France, on a le même avis. En revanche, on n'a pas le même avis sur l'état de la société. C'est là où on a une vraie divergence, qui est peut-être une question d'âge. Peut-être que plus on avance en âge, on dit qu'on avance en sagesse, mais peut-être qu'on avance aussi en pessimisme.
Peut-être. Bon, on va essayer de ne pas le faire.
On essaiera.
Voilà.
Mais je ne promets rien.
On dira
en tout cas, Édouard Balladur est assez sombre.
Oui.
Sur à la fois la société française telle qu'elle est, et en même temps, c'est surtout ça moi qui m'a frappé, sur les perspectives qui nous attendent. Et en particulier, par exemple, il considère que la numérisation de l'économie, bon, qui est inéluctable, mais porte des dangers terribles, ce à quoi je lui réponds que pourquoi plus en France qu'ailleurs.
Oui,
On n'est pas mauvais dans ce domaine. Enfin, je veux dire, sur le plan scientifique, industriel, sur le plan de l'usage personnel et privé du numérique, c'est une autre affaire, je le reconnais. Mais globalement, la France est bien placée dans ce domaine.
Et on n'a pas le choix.
De toute façon, voilà, c'est ça. Et moi, j'ai insisté, et considère qu'au fond, on traverse une des périodes les plus tristes de notre histoire. Moi, je lui dis que la période 57-58 était assez dramatique, elle aussi.
Bien sûr.
Peut-être plus.
Bien sûr.
Et puis surtout, je ne dis pas qu'il est décliniste, mais il est profondément pessimiste. Et il a l'impression qu'on entre dans un long tunnel dont il espère qu'on sortira, bien entendu. Mais il se pose la question. Et moi, j'essaye de défendre la thèse selon laquelle, en France, on a toujours eu des périodes de division, de doute, d'instabilité, d'échecs, quelquefois très violents, et notamment en politique, mais enfin, il y en a eu beaucoup.
Oui.
Que des périodes comme celle de la fin du Second Empire et de la Commune, par exemple, ou bien celle de l'affaire Dreyfus et ensuite de 1905 et des rapports entre l'Église et l'État, ou encore le début des années 30, ou bien évidemment la période de Vichy, et de nouveau la fin de la Quatrième République, et ensuite mai 68, ce sont des périodes pendant lesquelles la France a traversé des gros orages. Bon, et on n'en est pas mort. Et je pense que c'est vrai que c'est une période difficile aujourd'hui, mais je ne vois pas pourquoi elle serait plus négative à terme que celles qui ont précédé. En clair, je considère que c'est une période difficile dont il n'y a pas de raison de ne pas sortir, et il considère que c'est une période difficile dont il y a peu de raison d'espérer qu'on en sortira.
Alors, c'est maintenant à votre tour, comme toujours, donc le micro vous revient pour les dernières questions à Alain Duhamel. Micro, microphone, ici même, cher Pierre Charot. Et ensuite, donc, je profite de cet intermède. Donc, Alain va signer son livre à la bibliothèque, si je puis dire. Et je vous demanderai de ne pas oublier de laisser à l'entrée de cette maison vos adresses postales ou en tout cas vos adresses numériques pour que nous puissions vous informer de l'ensemble des manifestations qui se déroulent ici, soit colloques, soit conférences, soit aussi concerts qui sont nombreux. Et donc ça nous fait plaisir à chaque fois que vous soyez informés de tout cela. La question de monsieur.
Bonsoir, monsieur Duhamel. Je vais vous poser une question qui est peut-être marginale par rapport au sujet traité, donc c'est à vous de voir ce qu'il en est. Vous, si je ne me trompe pas, vous avez publié ces derniers jours une chronique dans un grand journal qui, si je veux la résumer, vous vous adressez au président de la République actuel, et pour la résumer, ça donnait ça à peu près. Emmanuel, tu vas trop vite, le peuple français ne pourra jamais absorber toutes les réformes que tu veux faire dans l'année ou l'année et demie qui vient. Or, pour moi, je pense que le peuple français est quand même fondamentalement un peuple qui aime la révolution. Sujet. Donc, pourquoi est-ce que vous arrivez à cette conclusion qu'il va trop vite ?
Alors, je ne le tutoie pas. D'ailleurs, je déplore les tutoiements entre hommes politiques et journalistes. Et personnellement, je ne les pratique pas. Même avec Nicolas Sarkozy. Et Dieu sait que c'est difficile de ne pas le pratiquer.
Oui, oui, oui.
Je ne crois pas en fait qu'il aille trop vite. Simplement, il y a un titre qui a été mis qui me faisait dire ça, mais je ne crois pas qu'il aille.
Oui, comme celui de Balladur,
voilà.
La politique étrangère.
Voilà. Je ne crois pas qu'il aille trop vite. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que il voulait faire beaucoup de réformes, dont le principe me convient assez, mais qu'il sous-estimait la lenteur des institutions. Et je développais la thèse selon laquelle, quand on fait une réforme, surtout si c'est une réforme qui remet quelque chose en cause, si c'est une réforme qui dit on va augmenter le SMIC de 10%, il y a assez peu de contestations, sauf dans les PME. Là, ce sont des réformes qui sont des réformes dont un bon nombre sont des réformes difficiles. Alors on peut considérer, ce qui est mon cas, qu'elles sont nécessaires. D'autres pensent le contraire. Mais elles sont difficiles. Et j'insistais sur le fait qu'il faut au moins un an pour élaborer et faire voter une réforme. C'est la mécanique législative qui est comme ça. Et le temps lamentable qu'il y a entre le vote d'une loi et la publication des décrets. Ça a peut-être l'air technique, mais c'est absolument essentiel. Il faut un an, donc. Ensuite, il faut au moins un an pour que les effets commencent à apparaître. Et en général, il faut plus d'un an. Et puis, il faut encore un an pour que ces effets qui commencent à apparaître soient intégrés par les Français, soient perçus. Total, 3 ans. Et moi, ce que je disais, c'est que quand on veut faire... ce que j'écrivais, c'est que quand on veut faire des réformes, évidemment, il faut commencer tout de suite. Et commencer par le plus difficile. Ce qui, d'ailleurs, est en partie le cas. En partie seulement parce qu'il y aura la question des retraites. Mais enfin, c'est en partie le cas. Mais qu'il faut avoir à l'esprit qu'au moment où on fera la deuxième réforme, la première ne sera pas encore totalement votée. Qu'au moment où on fera la troisième réforme, la première et la deuxième s'appliqueront peut-être, mais n'auront pas produit leurs effets. Et qu'au moment où on votera la quatrième réforme, c'est le moment où on commencera à prendre conscience des effets produits par la première. Donc que le calendrier, que contrairement à la thèse hyper classique qui est la France est un régime présidentiel et donc le président de la République est le maître des horloges, moi j'écris le contraire, j'ai écrit que les horloges sont les maîtresses du président de la République.
Absolument. Autre question. Cher Mario, avec le micro, toujours avec le micro. pour que vous soyez...
Est-ce que je peux revenir sur cette réponse ? Lorsqu'il y a une réforme, c'est un petit peu le cas dans les grandes entreprises, quand on veut faire une réforme, si la réforme suivante, on attend que la première ait produit ses effets 2 ou 3 ans, et si cette première réforme n'est pas bonne, jamais les autres pourront passer.
Donc
je ne sais pas, je pose le point d'interrogation. Donc, c'est pas évident. Les deux
dans une entreprise, il est possible qu'on fasse une réforme, qu'elle réussisse ou qu'elle échoue, et qu'on passe à autre chose. Sur le plan politique, les réformes sont malheureusement toujours simultanées, toutes en intervenant à des moments successifs différents. Et le problème est que les réformes s'entrechoquent. C'est inévitable, mais elles s'entrechoquent. Et qu'en général, quand elles s'entrechoquent, il se produit ce qui existe toujours quand il y a des chocs, c'est-à-dire des étincelles. Et qu'on voit brusquement des Français qui, au départ, sont assez bien disposés avec telle ou telle réforme, et qui, parce qu'il y en a 3 ou 4 qui s'entrechoquent, brusquement ont une réaction de rejet, ce qu'on a vu, malheureusement, extrêmement souvent dans l'histoire politique française. On est un pays qui rejette volontiers. On est un pays qui approuve avec enthousiasme, peut-être plus d'enthousiasme que les autres peuples, mais qui rejette avec une fréquence extrêmement fatigante.
Question, madame.
Dans ce que vous avez mentionné en raccourci, enfin je n'ai pas lu votre livre, donc je m'appuie sur nos échanges seulement. Vous n'avez pas fait mention de l'Europe et de la façon dont les institutions françaises auraient peut-être à s'adapter et ou de quelle manière ont-elles à faire évoluer le pilier européen en plein Brexit.
Alors vous avez énormément de mérite à poser la question. Et je comprends très bien que vous n'ayez pas le livre qui n'est en vente que depuis 2 jours. Donc, disons que c'est une circonstance atténuante. La question de l'Europe et de la compatibilité entre l'Europe et les institutions et de la compatibilité entre l'Europe et la culture française, politique française. On en parle énormément dans le livre, ne serait-ce que parce que ça a été un sujet de controverse et de clivage très puissant. Ça a été progressivement peut-être le sujet de clivage le plus puissant. Édouard Balladur, dans le livre, est plutôt plus européen qu'il ne l'a été comme homme politique. Et moi, je le suis autant que, comme toujours. Oui. Donc les réponses qu'on donne sont assez positives. En tout cas, il n'y a pas de contradiction institutionnelle, je dirais au contraire. Puisqu'au fond, quand on parle de l'Europe... La question qui revient toujours, c'est celle de l'équilibre entre la souveraineté et l'Europe, d'équilibre entre l'originalité française et l'Europe, d'équilibre entre notre culture, notre spécificité et la construction de l'Europe. Il se trouve qu'on a un régime présidentiel, ou quasi-présidentiel, qui est, de tous les régimes européens, ça, alors là, sans l'ombre d'un doute, celui au sein duquel l'exécutif dispose de la plus grande marge d'autonomie, de très loin, par rapport à tous les autres pouvoirs législatifs, régionaux, judiciaires, culturels, moraux et autres. Ça veut dire qu'un président de la République française, quel qu'il soit, a une marge pour mener sa politique européenne. Il y a d'ailleurs une illustration très simple à ça, qui est que quand il y a un Conseil européen, le président français est le seul qui, au sortir du Conseil, peut dire « voilà ce que nous avons décidé et voilà ce que, pour ma part, j'ai voulu ». Alors que les autres sont obligés de négocier au sein de leur coalition qu'il faut que le chancelier s'adresse d'abord au ministre des Affaires étrangères, après, et qu'avant même le sommet, il a fallu passer devant une commission spécifique au Bundestag, etc. Bon, le président français a les mains libres par rapport à des interlocuteurs qui ont les mains entravées. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ait de bonnes idées. Mais s'il a des idées, il a plus de chances de pouvoir les mettre en œuvre que les autres. La question est de savoir si, à un moment donné, il a de bonnes idées. J'ai trouvé que dans les dernières années, les bonnes idées étaient quelquefois mises en œuvre mais n'apparaissaient jamais, et que dans la période antérieure, elles apparaissaient mais n'étaient pas forcément bonnes. J'espère vivement que cette fois-ci, les bonnes idées apparaîtront et qu'elles seront mises en œuvre Et je crois que c'est possible. Je ne dis pas que c'est certain, mais je crois que c'est possible. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, puisque vous savez qu'il y a le vote des législatives en Allemagne qui va reconduire Angela Merkel, mais on ne sait pas très bien dans quelle coalition.
C'est ça.
Je crois qu'elle ne le sait pas encore elle-même.
Non.
Ça dépendra du résultat. Et il y a trois petits groupes. Il y en a un qui sera devant et qui sera le partenaire. Mais ça signifie que... Il y aura un jeune président français et une chancelière très expérimentée, lui avec beaucoup d'idées et elle avec beaucoup de savoir-faire. C'est un système qui peut fonctionner à un moment donné pour pouvoir obtenir des résultats qu'on a recherchés sans cesse depuis plus de 20 ans sans jamais les approcher.
Et voilà, l'ultime question pour celui ou celle qui serait... Ah, voilà, madame ou monsieur. Ah, madame. Micro. Monsieur.
Ah. Est-ce que vous avez le sentiment que la droite et la gauche existent encore ? Ou est-ce que la droite
existe encore, c'est ce que vous voulez dire ? Oui.
Je pense qu'il y a toujours une culture et une tradition de gauche et une culture et tradition de droite. Mais d'une part, le clivage principal aujourd'hui, en tout cas à mes yeux, est plus entre, en simplifiant, souverainistes et européens. C'est le clivage qui entraîne le plus de choix pratiques. D'autre part, dans l'état actuel des choses, après ce qui s'est passé au printemps dernier... La gauche classique et la droite classique sont provisoirement désintégrées. Elles ne sont pas dans le même état, à mes yeux. Je pense que la gauche est émiettée pour un bon moment et que comme c'est plutôt l'extrême gauche qui aujourd'hui domine, ça affaiblira durablement la gauche. Je pense que la droite est très fissurée. Et puis comme toujours, c'est son histoire permanente depuis deux siècles et partagée entre des gens qui ont à peu près tout en commun sauf des ambitions différentes. Mais que c'est souvent comme ça que les luttes sont les plus vives, je pense que la droite néanmoins se relèvera plus rapidement. Alors ça sera le cas, ça c'est effet de séance facile, ça sera visible dès dimanche prochain avec les sénatoriales, mais ça c'est purement mécanique. Mais je pense que dans les mois qui viendront, la droite reprendra un peu d'allant et de cohérence, un peu, et que ça sera plus difficile à gauche où c'est Jean-Luc Mélenchon qui dominera. Je crois que pour la suite, on verra de plus en plus, bien sûr, la persistance d'un clivage gauche-droite, même si économiquement, il n'a plus du tout le même sens qu'auparavant. Mais même si il y a cette dimension, il y aura ce clivage, qu'il y aura le clivage européen souverainiste qui va plutôt s'accentuer dans la mesure où on peut imaginer qu'Emmanuel Macron va être entreprenant sur ce point. Et puis qu'il y aura un clivage, je dirais, entre anciens et modernes au sein de chaque camp. Et qu'on va voir de nouveau, je ne dis pas une nouvelle vague de dégagisme, mais une effervescence dont les effets sont un peu imprévisibles qui se produira dans chacun des deux camps. La France est aujourd'hui gouvernée au centre et a une majorité au centre, ce qui lui arrive très peu. En règle générale, le centre n'est pas majoritaire, même s'il est souvent dans les faits au pouvoir. Là, il est majoritaire, il est au pouvoir. Je ne suis pas sûr que sa majorité persistera longtemps.
Et bien sûr, ces perspectives, cher Alain, nous allons te remercier. Le succès de l'assistance que tu as rencontrée aujourd'hui est équivalent à celui que tu avais eu l'année dernière avec les pathologies politiques françaises. Je dois dire que ceci est un accompagnement de vœux de succès pour ton nouveau livre et en te disant encore la joie que nous avons eue d'une bonne leçon de politique dans cette enceinte de la maison de Thiers. Merci beaucoup. Thank you.